nous vous proposons un essai radiophonique consacré au sujet les maquis de la vallée d'Azergues. Ces maquis implantés dans la vallée d'Azergues ont existé entre mars 1943 et août 1944. Ces maquis, deux parmi tant d'autres en France durant la guerre 1939-1945, présentent cependant la particularité d'être souvent oubliés dans les hommages aux maquis dans la littérature et dans les médias. C'est aussi, mais pas seulement pour cette raison, que nous avons choisi de nous y intéresser et de leur donner un écho radiophonique sur Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Une autre raison en est bien évidemment leur caractère lyonnais et rhône-alpin. Une autre raison encore est la spécificité de ces maquis, et en particulier celle du deuxième, le camp d'Estieux, qui mérite, ne serait-ce qu'à ce titre, qu'on s'intéresse à lui. Enfin, nous avons d'une part la chance d'avoir encore quelques acteurs de ces maquis toujours présents parmi nous et qui ont bien voulu apporter leur témoignage, ce dont nous les remercions chaleureusement. Et nous avons d'autre part aussi quelques témoignages oraux de maquisards aujourd'hui disparus, dont au moins un a pu être récupéré grâce à l'obligeance de l'ANACR, l'Association nationale des anciens combattants résistants, et aux moyens techniques de Radio Canus. Pour donner toute leur dimension à chacun de ces maquisards, il aurait fallu retracer leur itinéraire et de militants et de résistants jusqu'à leur arrivée à ce maquis. Mais cela nous aurait entraîné à retracer longuement des parcours souvent extraordinairement courageux et périlleux, sujet qui dépasse le cadre proposé ici. Néanmoins, ce travail-là, nous nous proposons de le réaliser par ailleurs à travers des émissions dédiées au destin personnel et militant de plusieurs de ces maquisards dans des émissions consacrées à chacun d'eux. Nous nous en tiendrons donc pour cet essai radiophonique d'une part au maquis Vendémiaire qui a existé de mars 1943 au 11 décembre 1943, il a été fondé par Antoine Fonlupt, Jean Aligne et Georges Thévenon, tous trois originaires du quartier des États-Unis. Le 18 mars 1944, Antoine Fonlupt sera abattu par la milice à l'angle de la place des Terreaux, côté rue du Puy-Gaillot. Une plaque rappelle son souvenir à cet endroit. Et d'autre part, au maquis Camp d'Estieux, qui a existé du 12 octobre 1943 à septembre 1944. Ce maquis fut ainsi dénommé par les maquisards en hommage à leur camarade André Destieux. André Destieux, caladois, était résistant FTPF très actif à Lyon où il faisait équipe avec Paul Gachet sous le commandement de Léon Marcel Chadbeck. Ils ont été arrêtés en février 1943 et livrés par la justice française à un tribunal militaire allemand qui les condamne à mort. Ils ont été fusillés à Dijon le 27 mai 1943. Pour conter l'histoire de ce maquis, nous laisserons le plus souvent possible la place aux témoignages oraux des uns et des autres, car c'est bien là la spécificité et l'originalité de cet essai. Mais nous nous autoriserons aussi, pour rendre plus facilement compréhensibles certains propos, des insertions de précisions diverses et de mises en perspective. Vous entendrez au fil de cet essai, par ordre d'entrée en onde, les voix des maquisards suivants. René Carrier, alias Napoléon, chef du 3e groupe. Roger Chavanet, alias Guérin, fondateur et dirigeant du maquis du camp d'Estieux jusqu'au 22 avril 1944. Louis Rossi, alias Vernet, un des tout premiers venus à ce maquis et qui en sera jusqu'à la fin. Hubert Reverchon, alias Bobby. Marcel Chadbeck, alias commandant Caron, adjoint au chef du maquis, responsable du premier groupe et dirigeant du maquis à partir du 22 avril 1944. Jeanne, épouse Roche, jeune fille Carton, et Fernand Carton, son frère, enfant de Claudius Carton.
Pour mes amis morts en mer et pour eux seuls désormais, que mes rimes aient le charme qu'ont les larmes sur les âmes. Et que pour tous les vivants qui changent avec le vent, si aiguisent au nom des morts l'arme blanche du remords. Mots mariés, mots meurtris, rimes où le crime crie, elles font au fond du drame le double bruit d'eau des rames. Banale comme la pluie, comme une vitre qui luit, comme un miroir au passage, la fleur qui meurt au corsage. L'enfant qui joue au cerceau, la lune dans le ruisseau, le vétiver dans l'armoire, un parfum dans la mémoire. Rime où je sens la rouge chaleur du sang. Rappelez-vous que nous sommes féroces comme des hommes. Et quand notre cœur faiblit, réveillez-nous de l'oubli. Rallumez la lampe éteinte que les vers vides teintent. Chante toujours parmi les morts en mai, mes amis.
Un maquis dans la vallée d'Azergue avait-il sa raison d'être? Il faut répondre assurément.
René Carrier.
Cette vallée est située à quelques dizaines de kilomètres de Lyon. Elle est desservie par une voie de chemin de fer d'importance moyenne, mais par laquelle l'ennemi va faire transiter marchandises, matériel et armement. Il est compréhensible que ce maquis ne pouvait s'installer dans la quiétude, alors qu'à Lyon, l'ennemi a une garnison importante dont les membres sillonnent les routes. Dès qu'il y aura action, il y aura répression. C'est le 13 mars 1943 que trois jeunes patriotes, Jean Aligne, Antoine Fonlupte et Joseph Thévenot, créent un maquis en liaison avec le mouvement des FFI-FTPF, lequel s'implantera sur le territoire de la commune de Clavaisole. C'est le premier maquis qui existera dans le département du Rhône. Il portera le nom de Vendémiaire. L'armement est alors inexistant, mais en mai, ces maquisards réussissent à se procurer des armes et des explosifs, et bientôt, ils passeront à l'action contre les lignes ferroviaires, à la cadence d'une opération par semaine. De bons résultats seront obtenus, avec notamment la destruction d'un train de blindés à la Clayette. Mais ce camp grandit en effectif. En août, il dépassera 100 membres et devient donc difficile à gérer. Et le 11 décembre, ces cantonnements seront encerclés par les Allemands. Mais si quelques erreurs de gestion ont été commises, les dirigeants du camp ont eu la sagesse de créer des liens étroits avec la population et d'établir des contacts amicaux avec les gendarmes de la Mure, et ils seront prévenus de cette attaque à laquelle ils échapperont. Mais les effectifs du camp seront à ce moment-là dispersés. Certains de ses membres rejoindront les groupes de ville à Lyon ou d'autres unités.
Après cette présentation du camp Vendémiaire, nous vous proposons le témoignage de Roger Chavanet, qui en 1974, dans un entretien à la Nacre, décrivait comment il en était venu à fonder le maquis du camp d'Estieux.
Au début d'octobre, je me suis rendu compte par certains recoupements, par pas mal de petites choses, que nous commencions à être repérés. En ce qui me concerne, j'étais parfaitement inconnu, n'habitant pas la région où j'habitais. Je me suis marié, j'habitais à Saint-Rambert-l'Île-Barbe. J'étais complètement inconnu à Saint-Rambert-l'Île-Barbe. J'ai donc pu passer inaperçu. Mais malgré tout, la police commençait à se préoccuper d'un certain Lombard, c'était à ce moment-là mon nom, et par voie de conséquence de celle de mes camarades. Aussi, j'ai pensé qu'il était bon de faire peut-être partir dans un maquis de laser qui existait déjà à ce moment-là, ceux qui me paraissaient les plus touchés par ces mesures de surveillance, en l'occurrence, le groupe de Vaux-en-Velin, avec les camarades Béville Bertrand, Pierre Aublanc, Barbier et ceux qui composaient ce groupe. Dans cet ordre d'idée, j'ai pris contact avec le camp Vendémiaire, qui existait à ce moment-là sur le territoire de la commune de Saint-Nizier-d'Azergues, et nous avons décidé de faire partir Émile Bertrand et André Barbier déjà, afin de leur procurer les renseignements pour les faire partir à cet endroit. Nous étions donné rendez-vous, grande rue de Saint-Clair, vers le pont Poincaré. J'arrivais avec un autre camarade de la direction de Calvire. Barbier et Émile Bertrand venant de Vaux-en-Velin, arrivaient par le pont de la Bourse, par la grande rue de Saint-Clair. Nous nous sommes joints à peu près vers une petite place, et c'est à ce moment-là que nous sommes rendus compte que nous étions repérés par des agents, des policiers en civil, que déjà nous avions vus en bas de la montée des soldats. Alors, ils se sont amenés pour nous mettre nos papiers, et ils ont voulu nous fouiller. Or, il y avait dans un sac tyrolien, que Émile Bertrand devait emmener, des cartouches de plastique, du cordon détonnant, des armes, tout un tas de choses, bien sûr, qui n'étaient pas nécessaires de leur faire voir. Il y a donc eu bagarre, nous nous sommes servis de nos armes pour nous défendre, et nous avons réussi à disparaître après en avoir laissé deux sur le carreau. Ça se passait le 6 octobre 1943. Le surlendemain, notre camarade Émile Bertrand se faisait arrêter non loin du domicile de sa sœur, à Vénissieux, Madame Didier, je crois. Ce domicile était surveillé, et il est venu se faire prendre là. J'avais donc rendez-vous avec lui pour l'envoyer le lendemain de son arrestation, c'est-à-dire il a dû se faire arrêter, je crois, le 7 ou le 8 octobre, et il devait partir le 8 ou le 9 octobre, enfin, un jour comme ça. Et quand je me suis présenté à la gare de Vaise, où je devais le prendre en charge et le monter, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'Émile Bertrand. C'est par le journal que j'ai appris son arrestation. Du reste, le journal qui a paru sous le titre « Un des bandits qui ont attaqué, qui ont tué les agents un tel et un tel, le grand rue de Saint-Clair est arrêté, etc. » J'ai jugé bon à ce moment-là de ne pas rester sur place et également de disparaître. Mais les liaisons, c'était ce qu'elles étaient. On ne les avait pas toujours sous la main. Que faire? Je ne pouvais pas rester chez moi. J'avais peur d'être repéré. J'ai donc été obligé de prendre une décision. Et je suis parti dans la Zergue. Je suis parti dans la Zergue en bicyclette. Et j'ai atterri sur renseignement. Nous avions au cours des mois déjà noué des relations un peu de partout. Et en accord avec un camarade de Villefranche, nous nous sommes retrouvés à Chamelet, dans un café qui existe toujours, un hôtel qui existe toujours, qui s'appelle l'Hôtel du Bon Accueil, et qui était tenu à ce moment-là par les époux Bessy, qui avaient également un grand-fils. Avec ce gars de Villefranche, que j'avais pris en passant, nous avons discuté de l'implantation d'un maquis dans cette région. Enfin, l'implantation d'un maquis, c'est même un peu trop présomptueux, simplement d'une cache, d'un endroit pour se cacher, en attendant des jours meilleurs. Et c'est alors que il existait déjà le maquis Vendémiaire, qui était dirigé par Jean Aligne. C'est alors que j'ai pensé à créer à ce moment-là un second maquis. Le maquis de Jean Aligne avait déjà 6 à 8 mois d'existence. Ils avaient fait quelques actions, mais eux aussi commençaient à se faire sérieusement repérer du fait qu'ils n'avaient jamais, presque jamais bougé de cette partie où ils étaient. Je dois dire justement à ce sujet qu'au mois de juin 1943, j'avais été envoyé par le commandement militaire interrégional en faire une inspection de ce maquis, et il y avait beaucoup de choses qui laissaient à désirer. Il avait fallu y mettre un peu d'ordre, et ce n'était pas encore terrible lorsque, en 1943, donc en octobre 1943, je me suis retrouvé dans la vallée d'Azergues. Nous avons trouvé, avec le concours du fils des aubergistes, une maison située sur le territoire de la commune de Dieppe, une maison abandonnée, au sommet d'une petite colline surplombant la route, Et c'est là qu'en quelque sorte qu'est né le maquis de la Zergue. Alors il est né ce maquis de la Zergue du fait de l'obligation qui m'a été faite de partir, de me mettre un peu au vert, mais je n'ai pas voulu rester bien sûr dans la nature. Il fallait agir, il fallait faire vite, le temps pressait, le STO avait déjà fait des ravages parmi la population paysanne. La mentalité des paysans, la plupart des personnes qui habitaient ces régions, avait considérablement changé, car ce n'était plus la période bénéfique où l'on vendait très cher des produits aux pauvres gens de la ville. Ce n'était plus la période bénéfique où le maréchal et ses séides lyonnais disaient « Lorsque les ouvriers viendront tirer votre sonnette, renvoyez-leur à leurs 40 heures et à leur congé payé. » Ce n'était plus cette période-là, car eux-mêmes étaient touchés. Et beaucoup, et ils s'en rendaient compte. Leurs fils, à eux, étaient touchés. En pleine période de vendange, en 1943, il y avait, par exemple, dans le bas Beaujolais, où j'étais à ce moment-là, énormément de jeunes qui devaient partir. Et ça n'arrangeait pas les parents, bien sûr. Et ça n'arrangeait pas non plus les jeunes. Il y avait donc là quelque chose à exploiter. Il fallait le faire. D'un côté, en même temps, notre sécurité était assurée du fait que les gens devenaient nos complices pour la bonne raison qu'eux-mêmes étaient dans le coup. Nous avons donc, trouvé cet endroit où nous pouvions constituer un maquis, je suis revenu à Lyon, j'ai réussi à reprendre contact avec des camarades de l'interrégion, et il a été décidé que le maquis de la Zergue était créé et que nous allions envoyer des gars désireux d'échapper au STO d'une part et désireux de se battre d'autre part, et puis des gars ici pour qui la sécurité à Lyon était compromise du fait des RAF, du fait de leur incessante activité, et qui tôt ou tard auraient fini par tomber entre les mains de la police, car bien sûr c'était quelque chose de particulier que la guérilla urbaine. C'est quelque chose de particulier, et c'était quelque chose de particulier que la guérilla urbaine, quand il s'agit de dire on part de chez soi et on n'est pas sûr d'y revenir, car là l'ennemi était partout. Au coin de toutes les rues, dans toutes les encoignures de portes, dans tous les cafés où vous pouviez rentrer pour vous rafraîchir, les mouchards de la police abondaient. Il y avait des centaines et des milliers, à ce moment-là, d'indicateurs et de flics qui étaient en chasse du matin au soir et qui appréhendaient toute personne leur paraissant suspecte, et tout jeune, a priori, était suspect puisqu'il devait être au travail ou en Allemagne. Donc la sécurité des gars était menacée. Il y avait donc nécessité de faire autre chose. Et également de développer cette ambiance de lutte qui ne pouvait pas s'exprimer que par la guérilla urbaine. Il fallait trouver autre chose. Les maquis, donc, dont on parlait déjà, bien sûr, on parlait des maquis du Vercors, on parlait des maquis dans les environs de Grenoble, mais à 30-40 km de Lyon, à part le maquis de mon camarade Jean Aligne, qui était créé depuis le mois de mars 1943, qui groupait donc des gars, mais surtout des gars qui ne voulaient pas partir en Allemagne, à part donc cet embryon de maquis, il n'y avait à ce moment-là aucun maquis dans la région lyonnaise. À 30 km ou 40 km de Lyon, j'aurais posé cette question à n'importe quel officier supérieur de l'armée d'active, il m'aurait traité de fou ou de provocateur, certainement, il m'aurait renvoyé dans le Vercors. Or, nous avons fait ce maquis dans la vallée d'Azergues, nous l'avons fait donc aux portes de Lyon, à cheval sur, quelque sorte, sur trois grandes voies de communication, sur trois grandes voies ferrées de communication, et sur trois routes nationales très importantes également. Je veux dire que, quand je dis à cheval, je veux dire que nous pouvions, de cet endroit, contrôler facilement ces trois grandes routes et ces trois grandes voies ferrées, la ligne Lyon-Bordeaux par Tarare, la ligne Lyon par Elmonial, par la Mure sur Azergues, les Écharmeaux, etc., et puis l'Allier, ça allait plus loin, et la ligne Lyon-Villefranche, puisque, après tout, nous n'en étions pas tellement loin, pour descendre sur la ligne de Villefranche et sur la nationale 6. L'endroit était donc bien choisi.
Roger Chavanet exerçait des responsabilités dans les groupes de ville de Lyon et dépendait de l'autorité de Marcel Clouet, lequel était un grand mutilé de la drôle de guerre, qui allait être massacré plus tard. Il approuva la décision prise par Roger Chavanet de créer un maquis dans la vallée d'Azergues. Il ne s'agissait pas, en effet, de regrouper des maquisards dans de lointaines montagnes, loin des garnisons et voies de communication de l'ennemi, mais bien plutôt d'implanter de petits groupes de maquisards mobiles, capables de se rassembler pour effectuer une action déterminée et de se disséminer après coup dans la nature. C'est le 12 octobre 1943 que Guérin, Roger Chavanet, crée un maquis affilié au mouvement FTPF, qui sera donc le second maquis du département du Rhône. Il portera le nom d'un héros de la résistance fusillé le 27 mai 1943 à Dijon, André Destieux. Guérin s'installe sur le territoire de la commune de Chamelet avec quatre patriotes. Petit à petit, les effectifs du camp s'accroîtront sans jamais dépasser avant le mois d'avril 40 hommes. Ceci pour des raisons d'efficacité et de sécurité. Le premier souci de Guérin est naturellement d'armer ses camarades. Trois fusils, 400 cartouches, quelques revolvers et une mitraillette sont récupérés. C'est avec cet armement rudimentaire que ces patriotes vont entreprendre une action permanente autant que positive.
Et Reverchon, là, c'est un collègue qui est venu de la Hesse, qui a fait le défilé à Yonne, je vous dis. Et Rassé-Lyon, ils étaient en tenue de chantier de jeunesse.
Louis Rossi, puis Hubert Reverchon.
Ce défilé d'Oyonnax, comment ça s'est passé, ça ?
Eh bien, on est arrivé pour aller à Oyonnax d'Échalon, en haut, Échalon. Et on est venu là, on s'est regroupé pour faire le défilé d'Oyonnax, et nos responsables avaient fait courir le bruit qu'il y allait avoir un truc, mais c'était un entoir, ils avaient dit. Vous comprenez ? Alors les Allemands avaient intercepté le truc, ça se passerait en entoir et tout. Oh là, il n'y a pas eu de problème, on a fait le défilé et tout le bazar. Et après, le défilé est terminé, pour rejoindre notre base, vous savez, à automne, tout le bazar, au plateau d'automne, on passait par la Cluse. Qu'est-ce qu'on voit, la Cluse ? Des Allemands. Les Allemands, quand ils ont vu les camions qui passaient, tout, on les regardait et tout. Ils n'ont pas fait un geste, personne n'a fait un geste, on est passé comme ça. Ils ont tellement été surpris parce qu'ils comprenaient quand ils avaient les renseignements sur
eux. Ils ne vous ont pas couru après.
Oh non, oh ben non, non.
Et la population, quelle réaction au Oyonnax, ils avaient peur, les gens, non, de vous voir ou plutôt rassurés ?
Oh, question d'être rassuré, peut-être pas tant que ça, hein.
Et vous l'avez retrouvé dans la Zergue, lui ?
Oui, nous agions dans la Zergue.
Mais oui. C'était à quelle date, alors, il vous
a... Oh, bah, attendez, ça doit être...
Enfin, à peu près, hein.
Oh, ça doit être pas... Le 11 novembre,
ce soir, décembre. Après le 11 novembre.
Non, mais ça dort, mais je vous dis bien, c'était au mois après le 11 novembre, hein. Fin novembre. Ah, d'ailleurs,
c'est ouais, assez vite après le 11 novembre.
Oui, j'étais 5. Il y avait lui, il y avait Noël, il y avait. D'ailleurs, ils sont en photo.
Je vous propose maintenant d'entendre Marcel Schadbeck nous décrire comment, après avoir dû disparaître de Lyon où il était recherché pour ses actions avec les groupes villes des FTPF, il en est venu à rejoindre le maquis du camp d'Estieux.
Quelque temps après, 6 mois après, je suis redescendu, et comme ma sécurité ne tenait qu'à un Mauser que j'avais dans la ceinture, on m'a dit « tu ne vas pas rester ici à Lyon, c'est trop dangereux pour toi, on va t'envoyer dans un maquis en formation, là, pas loin d'ici, à Chamelet ». C'est ainsi que j'ai débarqué dans la Zerg, où mes connaissances militaires déjà dans la guerre de partisans m'ont valu d'être nommé tout de suite adjoint au chef militaire Roger Chavanet. Et ça a été la lutte de partisans, là. Alors, contrairement au maquis d'hier, Vercors, Montboucher, maquis de l'Inde, grosse formation concentrée là, nous, notre tactique, c'était des petits groupes qui se déplaçaient presque constamment, mais qui harcelaient les Allemands alors que les autres attendaient au jour J où on leur donnerait l'ordre de passer à l'attaque. Nous, on passait à l'attaque tout de suite. C'était les attaques contre les Allemands, c'était les attaques notamment contre les voies ferrées. Paralyser le réseau ferré c'était paralyser l'armée allemande. Alors, bien sûr, ça nous a valu d'avoir les Allemands sur les reins, d'avoir la milice sur les reins, d'avoir les GMR sur les reins, et la Gestapo qui sillonnait dans tous les villages, dans tous les villages de l'Allemagne. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais je peux vous dire qu'on a passé un hiver dans des conditions terriblement difficiles, avec peu de matériel. C'est quelque chose qui nous a marqué. Nous n'avions pas une couverture par homme. On couchait par terre, même le sol, avec quatre couvertures pour 7 ou 8 hommes. Alors ce que l'on faisait, je prenais une sentinelle et on faisait coucher les hommes les uns contre les autres, flanc contre flanc, et on étendait les quelques couvertures qu'on avait dessus. Et on trouvait moyen de dormir quand même. C'était la jeunesse qui nous valait ça.
Et comment vous avez fait pour vous retrouver dans la Zergue après tout ça? Parce que c'était pas facile d'entrer dans le réseau qui permettait d'arriver.
Mais c'est parce que c'est le Doré qui est venu.
Ah, c'est avec lui que vous avez eu contact.
Voilà.
Hubert Reverchon.
Oui, on a contacté le Doré, le truc-là, voilà.
Oui, mais pourquoi?
Pour rejoindre le FTPF.
Mais comment vous saviez qu'il y avait un maquis de la Zergue?
Mais parce que le Doré nous l'a dit.
Lui, il y était. Ah bon.
Il y était, lui.
Et puis il est allé là-bas dans l'Inde.
Oui. Quand on est arrivé, nous, au Guéry, puis après, à la Johanna. Alors là, il y avait Chavanet. Alors donc, j'en reviens là-bas à la Johanna, quand je suis arrivé. Il y avait donc là, à ce moment, Chavanet, et puis il y avait...
Vous étiez dans les premiers, finalement, du maquis. Ah, vous étiez dans les 5-6 premiers
qui l'ont constitué.
Il faut dire que j'ai été envoyé par accident dans ce camp.
Marcel Chadbeck.
Ce camp était en formation avec mon camarade Chavanet et... C'était un camp tout à fait nouveau qui s'installait dans une région très près de Lyon, très près de Villefranche, très près de Tarare. Ça pouvait paraître un peu insensé. Et j'ai été désigné tout de suite comme adjoint-chef militaire. Et par la suite, c'est moi qui ai succédé à Chavanet lors de sa blessure. Donc, qui ai continué la vie de ce camp. Dès les débuts, nous n'avions pratiquement aucune arme, si ce n'est 7 fusils anglais, 2 sous-trois grenades et quelques pétoirs, quelques revolvers très anciens. C'est tout ce que nous avions comme armement. Et nous avons commencé nos actions dans la vallée d'Azergue, parce qu'il s'agissait pour nous, c'était notre objectif stratégique, de neutraliser la vallée d'Azergue, la route nationale et la voie ferrée Givors par El Monial, qui était une voie stratégique pour les Allemands. Alors, nous avons commencé, comme nous n'avions pas d'autres moyens, pas d'explosifs, en déboulonnant les rails. Et nous avons fait dérailler les trains.
Et quand vous partiez au maquis, c'était dans l'idée de vous battre
d'accord. Et là, quand je suis parti au maquis, j'ai été réceptionné à Saint-Nizier-d'Azergue. C'était le campement des mères.
Louis Rossi.
Et là, je suis resté quelques jours, vous savez, ils vous questionnent ce que vous avez tout. Et là, non. Moi, et là, ils étaient trop nombreux, j'ai demandé à partir vers le FDP. Je voulais rejoindre Barbier.
Qui était dans le camp des Thieux.
Camp des Thieux. Alors, on a rejoint au camp des Thieux.
C'était quelle date?
C'était au mois d'octobre. Le camp des Thieux, vers 20, 22. Mmh. Et moi, quand j'y suis allé, c'était 4-5. Hein. En plus, il y avait Chavanet, Guérin, comment on dit, Chavanet, et Maxoux, Alex, et Barbier, et puis un autre, 5. Et moi, je suis venu, c'était le 6e.
Chadbeck était déjà là, non?
Il nous a rejoint quelques jours après, Chadbeck.
Donc, votre arrivée à Vendémiaire, c'était en octobre 43.
Oui. Puis il a été dissous au mois de décembre, quand Vendémiaire, qu'on a récupéré des armes. Parce qu'on n'avait presque pas d'armes, hein, nous. Et alors, on a commencé les actions pour aller dérailler des trains.
C'était... Vous étiez très occupé ou... Ben, vous avez beaucoup de temps libre?
On avait du temps libre, on avait tout le temps libre, vous savez. Alors, on s'occupait, on coupait du bois, mais on n'essayait pas de se faire boire. Vous savez, à l'époque, là, même avec la population, on était isolés. Mm-hmm. Alors, on ne pouvait pas faire même grand-chose. On ne pouvait même pas faire des courses à pied ou n'importe quoi, parce qu'on était isolés, hein.
Toujours. Mais vous changiez souvent de...
On a changé souvent. Là, on est resté une quinzaine de jours. Après, il y a eu le truc de Vendémiaire. Ils ont été attaqués. Nous, on a changé. On était à la Joana. Et à la Joana, il y avait une personne, c'était une infirmière, Madame Vincent avec sa fille, sa petite fille, Monique. Et là, on lui coupait du bois et tout, vous savez. Et on... Entre-temps, on allait faire sauter des trains. Et là, on a été repérés. Et alors, à 1h du matin, nous sommes partis dans les bois de Brou. On avait un camarade qui avait de la fièvre, Bertocco, Cavalgini, et on, avec des collègues, on l'a porté sur des brancards de Brou. On l'a emmené chez lui, et ses parents habitaient les trains. Mm-hmm. On l'a posé là. De Brou, on est resté à une. On descend de la colline, on est remonté du côté de Saint-Cyr, où on a bivouaqué. Et à Saint-Cyr, on a été repéré aussi. On a changé de coin. Et le maire de Chamelet, c'est tout de Chamelet, là, les Allemands sont venus, ils leur ont demandé où c'est qu'il y avait le camp. Lui, il a dit, moi, je suis français. Il a été déporté, d'ailleurs, il est mort là-bas.
Et nous avons commencé à nous développer à partir du mois de novembre 1943.
Roger Chavanet.
Nous avions déjà changé de lieu de séjour. Nous nous trouvions encore bien plus enfoncés au cœur de la vallée d'Azergues, plutôt du côté des monts de Tarare même, sur la commune de Saint-Just-d'Avray. Et c'est là vraiment qu'on peut dire que nous avons commencé à acquérir notre formation militaire par l'appoint de beaucoup de camarades qui sont venus de Lyon d'abord, d'autres jeunes du maquis, comme tout à l'heure je vous en parlais, qui étaient dans les maquis de l'Ain, de l'AS, qui sont venus nous rejoindre, toute une dizaine au moins sont arrivés. Nous avons créé un service sanitaire et nous avons commencé à faire de l'action. Que fallait-il faire comme action? Engager une action spectaculaire ou des actions de moindre importance mais plus nombreuses? C'est sur ce deuxième point que nous nous sommes dirigés, c'est-à-dire c'est ce deuxième point que nous avons admis. Nous avons préféré faire des actions moins spectaculaires mais plus nombreuses que de faire des actions spectaculaires qui auraient pu attirer une répression violente contre laquelle nous n'aurions rien pu faire, vu la bonicité de nos armes et de nos effectifs, qui aurait pu frapper aussi la population civile, et par voie de conséquence, nous rejeter pour longtemps, si peut-être, dans une nouvelle illégalité, en quelque sorte, nous obliger de dissoudre le maquis et de revenir à Lyon. Nous avons donc commencé, en ce qui nous concerne, une tactique sur les voies ferrées de déraillement, d'interruption de circulation des trains. C'était notre objectif numéro un. Car nous ne pouvions pas, à ce moment-là, avec les armes dont nous disposions, aller se poster sur les routes et attaquer les convois allemands. C'était de l'utopie. Ce qui était possible, à ce moment-là dans le Vercors, dans des endroits plus reculés, dans cette agglomération de l'Azergues, on peut dire, puisque les villages se touchent, hein, il eût été impossible de le faire avec une chance de succès. Nous aurions pu réussir une fois, et puis après, quel aurait été le résultat? Zéro. Pour quelques soldats allemands qui auraient été tués, hein, notre maquis aurait subi des pertes terribles et aurait été obligé de se disperser. Nous avons donc préféré faire une action continue. Et nous avons porté principalement celle-ci sur la voie ferrée, bien sûr, qui était la plus proche de nous, c'est-à-dire la voie ferrée de Paray-le-Monial, passant par la Mure, les Écharmeaux, que nous avons détruite... au moins, en l'espace de 2 ou 3 mois, une quinzaine de fois. On peut dire que pratiquement, depuis le mois de novembre-décembre 1943, jusqu'à je ne parle pas de la libération, mais jusqu'au mois de juillet 1944, date à laquelle la vallée était considérée comme libérée, on peut dire que les trains n'ont presque jamais roulé d'une façon régulière. Il ne se passait pas deux semaines sans qu'il y ait une action de notre part sur ces portions de, sur cette portion de voie, ceci entre Châtillon-d'Azergues et La Clète. Le nombre de matériel détruit est impressionnant, locomotives, wagons, etc. Des trains entiers de ravitaillement ont déraillé, notamment un train de 20 qui partait pour l'Allemagne, qui a déraillé vers la gare de Ternant. Deux trains de marchandises qui se sont télescopés sous le tunnel de Chamelet à la suite d'un déboulonnage de voies. La circulation a été entravée pendant plus de 6 jours, le temps que tout soit sorti. Et j'en passe, car ça s'est produit ainsi pendant tout l'hiver et tout le printemps 1944. Je ne veux pas remonter plus loin, puisque après, c'était des opérations plus importantes, mais la vallée était déjà à ce moment-là pratiquement libérée. Il y a eu aussi de notre...
Il y avait une occupation dans la vallée?
Ah non, il n'y avait pas d'occupation proprement dans la vallée. Les Allemands étaient à Villefranche, ils étaient à Lyon. Mais il n'y en avait pas à Chamelet, qui était un petit village, ils ne pouvaient pas mettre des soldats partout. Justement, l'important, c'était de leur créer un climat d'insécurité qui les oblige d'autant plus à se regrouper d'abord dans des centres, hein, et qui leur interdise en quelque sorte de pouvoir circuler librement comme ils l'auraient voulu. Notre tactique était celle-là.
Lorsque nous sommes arrivés à la Joana, Saint-Just-d'Avray, c'est un de nos stages, qui a été par la suite le stage référent. Nous avons tombé sur Madame Vincent et sa petite fille, Monique Vincent. Et elles ont fait partie de l'imagerie du maquis pendant tout le temps que nous sommes restés jusqu'à la libération. Chaque fois que nous avions un coup dur, nous nous replions sur la Joana. Et chaque fois que nous avions des blessés, c'était sur la Joana qu'on les... Je dois dire une chose, c'est que cette Joana nous a été... féconde parce que le docteur Francoz de Saint-Just-d'Avray a été pendant quelques mois et véritablement presque tout le temps un des docteurs féconds du maquis. Grâce à lui, de nombreux de nos camarades ont survécu.
Les premiers contacts établis avec la population, notamment les paysans, sont encourageants. Il sera possible d'obtenir du ravitaillement et des renseignements. Mais il faut encore faire preuve d'une vigilance de tous les instants. Il importe de ne jamais rester sur un même lieu, dans le même temps où une partie des effectifs opère, une autre se préoccupe de la recherche d'un nouveau cantonnement, ce qui n'est pas facile, dans le cours de cet hiver particulièrement froid et enneigé, de 1943 à 1944. Destieux compte alors 37 hommes, organisés en 3 groupes de combat, maintenant solidement armés de fusils mitrailleurs et d'une mitrailleuse Hotchkiss. Chaque partisan reçoit 2 grenades défensives.
Bah, le quotidien, c'était difficile, parce qu'à l'époque, la France manquait déjà de tout, et nous n'avions rien. Alors, par exemple, nous étions dans une région assez montagne moyenne, 600-700 mètres d'altitude, et nous n'avions une couverture pour 3 ou 4 hommes. C'est tout ce que nous avions pour coucher. Et dans nos déménagements fréquents, bien sûr, nous n'avions pas de poêle, de paille, etc. Il fallait coucher à même le sol. C'est vous dire les conditions précaires. Et quant à l'alimentation, eh bien, elle était plutôt frugale.
Tout au long de ces mois d'hiver, nous occupons une 10aine de cantonnements qui nous conduisent de la vallée jusque dans les monts de Tarare. Notre première action contre la voie ferrée aura lieu le 5 décembre. Un train déraille entre Civrieux et Lausanne. 4 wagons sont détruits. Et le trafic est interrompu pendant 48 heures. Le 18 décembre, une locomotive et 10aine de wagons sont détruits sur le pont métallique situé entre Châtillon et Lausanne. Le pont est sérieusement endommagé et le trafic interrompu pendant 10 jours. Les coups portés au trafic ferroviaire n'ont évidemment pas laissé l'ennemi indifférent. Il multiplie les patrouilles. Et la Gestapo pullule dans la vallée. Le camp Vendémiaire, qui fut l'un des premiers maquis de France, devait tout apprendre de cette vie clandestine. Il fallait acquérir les aptitudes nécessaires pour gérer une telle formation. Ce maquis est devenu trop nombreux en effectif, 135. Et s'il échappera à l'attaque du 11 décembre, il sera dissous et ses membres répartis dans d'autres unités ou dans des groupes de villes de Lyon. Ce camp a eu le mérite de récupérer avec la complicité du coq enchaîné, auquel avait appartenu Jean Aligne, une quantité d'armes importantes provenant de l'armée qui avait fait retraite et dont allait bénéficier le camp d'Estieux pour la plus grande joie de ses membres. Le 11 décembre, plusieurs centaines d'Allemands appuyés de GMR bloquent le village de Saint-Bonnet-de-Troncy dans l'intention de cerner Vendémiaire. Mais les membres du camp prévenus parviennent à échapper à l'encerclement. Furieux de leur échec, les Allemands arrêtent plusieurs habitants du village, ainsi qu'un gendarme de la Mure, et incendient la vieille ferme qui abritait le camp. Les otages seront déportés. Les membres du camp d'Estieux, alertés, changent par précaution de cantonnement. Mais le 13 décembre, le camp d'Estieux, repéré à son tour, doit encore faire mouvement. Le 19 décembre, il est à nouveau repéré. L'ennemi cerne la région de Chamelay et ne pourra qu'incendier la ferme du Cocon que le camp venait de quitter. À Chamelay, ils allaient arrêter le maire, M. Sonnery, qui sera déporté et ne reviendra pas. Le 23 décembre, le camp d'Estieux a été victime d'une dénonciation, mais les maquisards ont changé de cantonnement et les 300 GMR conduits par le dénonciateur au lieu-dit le Parasoir en sont pour leurs frais.
Comme le cas s'est produit, du reste, pour ce premier maquis dont tout à l'heure je parlais, qui était dirigé par notre camarade Aligne, et qui est attaqué par trois colonnes allemandes, n'a dû son salut qu'au fait qu'un jeune du maquis partait en permission, prenait le premier train à la Mure sur Azerbe, et en descendant la colline, a vu les camions d'Allemands arriver. Mais malgré tout, ça s'est soldé par la dispersion du maquis, qui n'a pas pu se reformer, et par l'arrestation d'une dizaine de paysans du coin qui entouraient ce maquis et qui ont tous été déportés, la plupart sont morts du reste, en déportation. Or, ce maquis n'avait jamais fait quelque chose de transcendant, mais ça faisait trop longtemps qu'il était au même point, et bien sûr, il y avait des traites de partout. Un jour ou l'autre, il avait été vendu et les Allemands étaient venus en expédition.
Évidemment, les Allemands, la Gestapo, les Français, la police française, la milice, tous ces gens-là étaient à la recherche de notre maquis qui leur portait des coups terribles et ils voulaient absolument nous détruire. Et ça nous a obligés, en plusieurs fois et très souvent, à déménager, parce que nous n'étions qu'une trentaine, mais à déménager dans des conditions très précaires, quelquefois à une demi-heure près, avant que les troupes allemandes arrivent sur nos lieux. Et c'est ainsi que nous nous sommes trouvés dans des voisinages du Parasoir, Péréon, Vaux-en-Beaujolais, et nous avons fait comme ça de multiples séjours un peu partout.
Durant cette période de déplacement incessant, le ravitaillement s'avère impossible et le menu se compose de pain, de sucre et d'un peu de chocolat. La direction du camp décide de se déplacer de quelques dizaines de kilomètres dans les monts de Tarare.
Ils sont arrivés comment, vous savez ?
Alors, écoute, comment je sais ? Non, je sais rien.
On peut pas savoir, mais
moi je sais. Je sais quand ils sont arrivés, on nous a dit le maquis est chassé de la Zergue, ils arrivent chez vous. Bon,
voilà, c'est ça.
Bon, c'est tout. Par qui, comment ?
Jeanne Roche et Fernand Carton.
C'était en fait à fin 43.
Ça, c'est fin 43. Ouais.
Et ils les avaient eus très près pendant 3 mois. Quoi,
ah ben, oui, on a...
En mars 44, après ils sont partis.
Après, Après le 19 mars, nous, ça a été terminé.
Et il est arrivé des armes, vous voyez, avec les vaches, il fallait les emmener au maquis, vous voyez, donc c'est incroyable. Non, une fois, hein, quand il s'est arrivé toute cette camionnette
et
d'armes...
Ben, le mois de décembre,
oui. Alors,
quand le maquis de la Zergue est arrivé,
et oui, alors, y avait
qu'ils étaient pourchassés de la Zergue, qui sont arrivés chez nous, et il a fallu... Il y avait de la neige, ils n'ont pas pu descendre en bas avec la camionnette. On a toutes porté les armes, les... il y avait des petites bombes, des grenades.
La peine pièce. S'ils étaient venus là, bah, donc, c'était le massacre. C'est vrai que...
Mais...
Et donc, à partir de décembre, vous vous êtes retrouvés avec les maquisards de
ah ben là, ils étaient...
camp de la Zergue.
Oui, j'avais, comment on dit, un peu
près de vous, quoi.
Le PC, pas le PC, si
oui,
vous
oui,
voulez.
Oui,
mais ils arrivaient, ils partaient le soir pour faire... comment qu'on appelle, en opération.
Voilà.
Bon, soit ils mangeaient le soir, soit ils mangeaient le matin. Et c'est vrai, il y en avait toujours à la maison.
Presque toujours un à la maison. Ben, un ou deux,
trois, tout le temps, ils partaient. Mm-hmm. Et quand ils partaient en opération, mon père me disait, va voir Carrier à Tarare, c'était un gendarme. Tu portais des fois un petit bout de beurre. Des fois une bricole pour faire une entrée. Et puis je lui disais ce soir, il ne faudrait pas aller là, de ce côté.
Il y avait un déraillement prévu, il y avait.
Il y aurait là. Alors.
C'était des gendarmes un peu complices, ceux-là.
Voilà. Oui.
Oui, ceux-là, oui.
Mais.
Il fallait tout de même se méfier, tout, malgré
oui,
tout.
Oui, malgré là, tout. Parce que. On en a eu un. Dans, attends, c'était. On était préfère les foins que Tarel. Qui était assez dur. Et je sais qu'un jour, on était après faire les foins, il s'est arrêté. Ils étaient en vélo à l'époque. Il nous dit, c'est pas trop tôt que ce soit fini, ce bazar. On n'en pouvait plus.
Bah oui, parce qu'il fallait qu'ils...
Ils étaient...
Il ne fallait pas voir, quoi.
Ils étaient... comment on dit ?
Sous pression.
Oui, parce que...
Ils n'avaient pas le rôle facile.
Moi, j'allais souvent à la gendarmerie.
Ils n'avaient pas le rôle facile, bon, c'est sûr.
Oh là là, j'en ai fait des voyages là-bas.
Et vous, vous avez fait agent de liaison, j'ai lu dans la littérature,
oui.
On peut dire ça, ou c'est comme ça
oui.
Que vous voyez.
Un petit peu agent de liaison, je portais les plis,
ouais.
un peu d'un côté et de l'autre. Je portais les plis et le ravitaillement après. Mais là, j'avais porté plusieurs fois des plis, je me les apportais. Que le matin que ma mère est morte, le matin, et c'est la dernière chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit, tu sais, le jour qu'il t'a apporté ce pli le soir, eh bien le gars, il avait peur de se faire fusiller, il n'était pas tranquille, et il t'a envoyé, toi, t'aurais jamais dû y aller. Je me suis dit après, comment qu'elle a dû souffrir toute cette période, parce que, je prenais le vélo, j'essayais de faire vite, mais j'étais toujours d'un côté de l'autre.
Ces plis, on vous les amenait ou ils
arrivaient les apportait.
Par la poste
oh, on les apportait.
Et vous les emmeniez oui, là
voilà,
où ils
oui. Souvent, là, 15 jours, je suis arrivée, quand ils étaient au trou, là-bas, je suis arrivée, il n'y avait personne de garde, puis comme je connaissais bien le coin, moi j'arrive, je rentre. Oh là là. Le père Chavanet, qui était, c'était lui le, qui est de garde. Il me dit, comment vous êtes rentré? Mais je lui dis, par la porte. Oh là là.
Ah ben, oui, parce que notre père avait loué une propriété à l'extrémité du village d'Afou, là-bas, dans un, vraiment dans un trou reculé, pour,
éventuellement,
au cas où, voilà, un repli. Oui. Voilà.
Alors, c'est pour ça que je connaissais bien les coins. Mais
mieux que.
Mais oula, mais plusieurs fois, puisque un jour j'ai cru que j'allais rester coincé dans la neige là tellement il faisait mauvais que je me rappelle même pas de.
Bon, enfin, c'est une période vraiment difficile, hein, il faut reconnaître.
Donc c'était presque enfin plusieurs fois par semaine ces transports de plis, il y avait sans arrêt.
Oh, ça dépend, ça fait.
Bon, c'était quand même occasionnel, quand même,
oui.
C'était. Hein.
Pas plusieurs fois par semaine.
Non. Non, parce que...
Mais enfin, quand même...
Non, parce que je pense à des agents de liaison en ville.
Mmh. Ah oui, mais bah, il y avait des missions. Oui, ils n'arrêtaient pas. Tandis que là, c'était quand même plus...
Par exemple, tu vois, quand ils sont arrivés, le mec est arrivé, je les ai emmenés à la brigade de Saint-Laurent. Mmh. Parce que, mon père me dit, tu les emmènes à la gendarmerie de Saint-Laurent, parce que, voir, s'entretenir avec les gendarmes, dire qu'ils étaient là, quoi, que, savoir ce que... Bon, je les ai emmenés, j'ai attendu, je ne suis pas entré dans leur... j'ai resté un peu à l'écart, ils m'ont laissé à l'écart, mais... Et eux, ils sont rentrés...
Oui, parce que les gendarmes Saint-Laurent, comme ils en tenaient un café, ils venaient visiter, vous comprenez, ils faisaient leur tournée de temps en temps.
Et oui, nous, on faisait partie de Saint-Laurent.
Saint-Laurent de Chaboussin, vous voyez, on les connaissait.
Oui. Et alors, puis, c'était Saint-Laurent et c'était Tarare.
Voilà, Saint-Laurent et Tarare. Oui.
Et quand il y avait des résistants chez vous, ils pouvaient passer pour des clients, enfin, dans la mesure où ils n'avaient pas leurs armes.
Et voilà, mais bien entendu, c'est sûr. C'était en civil, ils auraient pu passer pour des clients. Mais ça, c'est. Oui.
Je ne sais pas bien comment expliquer parce que on arrivait qu'on était habitué.
Ah ben, il venait comme ça, enfin, il venait, c'était le,
oui.
Le repli pour dire il venait là pour.
Il y avait le cœur. Oui. Souvent ils partaient par le cœur.
Ben voilà.
Ils arrivaient par le cœur, puisque quand ils arrivaient chez nous, moi je me souviens quand Muller est arrivé de Paris avec Joe, je me souviens. Deux de Paris qui sont arrivés un lundi matin avec un mot de passe. Ils ont commencé à dire on est bien chez M. Carton. Alors oui, et puis que le papa, je ne me souviens pas ce qu'ils avaient comme mot de passe, mais je me souviens bien quand ils sont arrivés. Là,
Ben oui, ils arrivaient
chez nous.
Le car s'arrêtait
à la route.
C'est-à-dire que le car s'arrêtait un petit peu avant, il n'y avait pas un arrêt fixe comme aujourd'hui. Oui. C'était le car qui faisait la liaison Lyon-Panissière.
Oui.
Hein? Et alors,
les gars. Il faisait tous les jours déjà Pontcharra-Panissière.
Et puis de temps en temps.
Il faisait avec le train, parce que c'est le car qui montait le courrier.
Voilà, c'est ça, oui. Oui. Et il s'arrêtait comme ça. Voilà. Oui.
Une année finie, l'autre recommence. L'un après l'autre, les mois s'avancent, apportant dans leur cortège bleu la promesse de jours plus heureux. Et pendant que la victoire s'apparaître à revêtir ses habits de fête, le voile noir des désastres s'étend, oui, sur le Reich et ses derniers amis. C'est la complainte des nazis, le crépuscule avant la nuit, qui met au cœur des hitlériens l'âpre terreur du lendemain. Elle exprime par ses accents la sourde angoisse du châtiment. Dans la tempête et dans les caries, c'est la complainte des nazis. Dans la tempête et dans les caries, c'est la complainte des nazis. Miliciens, mouchards, tristes apôtres, cette complainte est également la vôtre. Vous les traites, les vendus, les vomis, vous les lâches, elle est la vôtre aussi. Tortionnaires, bourreaux et mercenaires, et le rythme, votre horreur dernière. Collaborateur, écoutez-la bien, c'est pour vous que chante ce refrain. C'est la complainte des nazis, c'est la complainte des pourris, qui met au ventre des salauds la peur de la corde ou du poteau. Elle accompagne en quelques mots l'agonie de l'ordre nouveau. à vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis.
Le 7 janvier, 18 wagons et une grosse quantité de matériel déraillent à proximité de Chamelay. 6 jours d'interruption de trafic. Le 7 février, une locomotive et 8 wagons sont détruits à Saint-Laurent-d'Oin.
Alors voilà, alors ma foi, moi au maquis, j'ai participé à toutes les opérations.
Hubert Reverchon.
Hein?
De quoi vous vous souvenez?
Eh bien, je me souviens quand on participait au déraillement des trains, de la ligne, la voie ferrée. Alors là, on partait à la nuit, le long des voies, avec des baramines, et on prévenait les mécaniciens, par exemple. Sur la voie, on mettait un genre de fusée éclairante, de trucs comme ça. Quand la locomotive, le train arrivait, paf, ça déclenchait le truc. Les mécaniciens savaient à quoi s'en tenir, ils sautaient du train.
Ah oui.
Puis le train continuait, puis il est un peu plus loin, puis il sautait sur le...
Ah, vous les préveniez.
Il déraillait. Mais alors, ce qui se produisait par la suite, les Allemands, ils avaient trouvé l'astuce. Ils envoyaient devant le train une locomotive seulement, pour voir si la voie était libre, vous comprenez ? Alors, j'ai participé, moi, au déraillement de train dans le tunnel de Chamelay. Et on s'en est sorti juste.
Hein. Ah oui. Pourquoi?
Ben, parce que...
Il n'y a pas eu le temps.
Juste le temps, puis il n'y avait pas beaucoup de place. Hein.
C'est là où il y a 2 trains qui sont télescopés après le premier déraillement et le deuxième.
Comme on avait saboté la voie ferrée et tout le bazar. Et on allait de Chamelay jusqu'à Lausanne.
Là, vous faisiez une partie avec les véhicules. Là. Vous
faisiez pas tout. Oui. Puis une autre partie. Parce... Voilà.
Ça, c'était pas les opérations les plus dangereuses parce que il n'y a jamais eu d'accrochage sur ces opérations-là.
Non.
Vous arrivez à vous replier.
Oui, non, il n'y a jamais eu d'accrochage. On n'a jamais rien eu. Hein. Hop, automatiquement, on se déplaçait de nuit sur un autre site et tout. Ah là, il faut que je vous dise. Justement, si on a eu un gros problème à Montchal, vous savez, c'est parce qu'on n'avait pas changé de camp, à temps voulu.
Quand vous dites repéré, vous le saviez comment des gens vous le disaient ou...
Oui, on était avertis quand même, on était avertis, puis Guérin, il s'enseignait bien. On avait... La population, là, c'est bien avec nous, hein, déjà. Vous savez, on avait fait des mairies pour avoir des tickets, on les avait transmis chez les commerçants, et le soir à 10h, on allait chercher le ravitaillement chez Duperron, puis chez la boulangerie.
Oui, Rossi. La population, vous deviez avoir des rapports un petit peu ambigus, parce qu'à la fois, ils étaient bien conscients que vous défendiez la France, et en même temps, ils se disaient que votre présence pouvait leur attirer des ennuis, qu'ils n'auraient pas eu sans ça.
Oui, mais vous voyez, nous, on a tout le temps évité d'avoir de vrais accrochages avec les Allemands. On n'était pas armés pour eux, il faut être logique. Alors, la population, elle ne pouvait pas avoir des représailles du moment que... dérailler un train, tout ça, on ne déraillait pas au même endroit, vous comprenez. Quand on était à Chamelay, on faisait dérailler les trains plus loin. On allait du côté de Lausanne, tout ça.
Et ces opérations, vous les faisiez de nuit?
De nuit.
Donc il fallait marcher beaucoup?
On faisait des fois 20 km, 30 km, et puis voilà. Dans les villages, on allait doucement pour pas faire du bruit et tout, pour pouvoir être...
Et dérailler, c'était déboulonner ou c'était
déboulonner, déboulonner, on déboulonnait les voies.
Il fallait combien de temps pour déboulonner une voie?
On allait assez vite quand même, hein, mais on y allait, hein, vous savez. Puis après, on mettait la rail de côté, quoi. Et on a eu beaucoup de succès avec les déraillements. Hein.
Et les conséquences, vous les lisiez dans les journaux, non ?
Dans les journaux, quoi. Puis on le savait par la population, après. Et de là, quand nous sommes partis après du côté de Saint-Denis-de-Vert, on s'est repéré, on a eu des accrochages avec les Allemands, donc Guérin a été blessé. De là, on est aux Écharmeaux, on couchait dans les bois.
On était en 44, hein, déjà.
C'était le début de la... Oui, 44. Début. Et quand on a vu qu'on a été trop repéré, en voiture, en camionnette avec du perron et tout, nous sommes allés au Souzy, dans la Loire.
Ça faisait une grande distance.
On était dans un creux. Et là, on est rentré en relation avec, je ne sais pas si l'AS ou quelqu'un, qui nous ont dit qu'il ne faut pas bouger. C'était calme, il ne faut pas faire d'action, vous voyez, il faut attendre. Nous, ce n'était pas notre rôle. On a continué à aller faire dérailler des trains. De là, on a été localisés. Nous sommes partis à la Thibautière, où M. Carton il a été déporté. Quand les Allemands sont venus, dans la journée, on devait venir, ils devaient tuer une vache pour nous ravitailler. Et quand les Allemands sont venus, il a dit à son fils en patois, va vite avertir les autres, donc, voilà. Et c'est là que on est parti, que M. Carton était déporté.
Arrêté.
De là, on est reparti sur la Thibautière, nous sommes allés. Ben là, Guérin n'était pas blessé, hein, je vous dis bien.
Oui, bon.
Nous sommes allés du côté de. Ah oui, du côté de Violet. Nous sommes passés quelques jours par Michelin. Et de là, nous sommes allés au Maga. Et quand nous sommes allés au Maga, on a fait sauter les. On a attaqué la mine de Pierre-Ruit, la Saint-Bel, on a fait sauter les trains. Et là, les gendarmes, Bonnet, ils nous ont dénoncés. Et on devait partir, ça c'était un samedi, on avait été caché. Et le dimanche, la veille, le samedi, on devait partir changer de coin. On avait les ordres d'ailleurs de Chavanet, qui était descendu à Lyon avec Duclos. Et. Bon, ben, s'il faisait mauvais et tout, on a dit, bon, ben, on reste un jour de plus.
Quel autre souvenir vous avez des actions un peu exceptionnelles qui vous ont marqué?
Ah, ben, ça nous a marqué, c'est quand on a fait dérailler le train à Chamelin. Il y a deux trains qui ont déraillé au même moment. Et là, c'est un bon coup.
Il n'y avait pas de voyageurs dans ces
trains? Non. Il y a des gens du pays, je crois qu'ils ont même bien récupéré du sucre, et du matériel, quoi, autrement, mais deux trains qui sont télescopés sur le tunnel de la du Chamelin, d'ailleurs, c'est marqué là.
Oui, c'est connu, oui. Action, sûr. Et les gens.
Mais les gens, moi je vous dis, c'était bien. Il n'y avait pas à se plaindre.
Parce que c'était comme les Allemands étaient. Enfin, les Allemands, je ne sais pas, la SNCF. Si la direction était très collaborationniste, mais ça devait les embêter drôlement, ces déraillements permanents.
Ah ben oui, mais d'ailleurs c'est pour ça qu'ils nous ont bien pourchassés, et que nous on a eu de la chance, on n'est jamais resté au même endroit. Mm-hmm. On s'est resté au même endroit, on ne peut pas combattre. Enfin.
Oui, ça a sûrement été la grande erreur des maquis du Vercors.
Voilà.
Enfin, ils étaient trop nombreux.
Non, mais c'est malheureux à le dire, oui. Nous, je vous dis bien, ils n'ont jamais pu nous savoir le nombre qu'on était. Ils croyaient qu'on était 5000, 6000, je ne savais pas. Ils ne savaient pas où on était. Je vous dis bien, ils nous ont bombardés.
Et qu'est-ce que vous saviez à ce moment-là de ce qui se passait ailleurs en France, des autres maquis?
Eh bien, on savait, quand le soir on discutait, on écoutait le poste, alors on arrivait à savoir ce qui s'était passé.
Vous écoutiez quoi, la Suisse ou Londres?
Non, Londres.
Londres.
Ben, on avait su déjà pour Stalingrad, là, au mois d'octobre, là, quand il y avait la capitulation, ça, on l'avait su déjà en étant maquis.